With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce 116e épisode du Rendez-vous Tech. Nous sommes en septembre 2013 et c'est l'épisode numéro 116, comme je le disais à l'instant. Épisode mémorable s'il en est, puisque c'est le grand retour dans l'émission de Jeff en direct de la Californie. Comment vas-tu, Jeff ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait grand plaisir de revenir. On essayait de se rappeler avec Patrick quand était la dernière fois que j'avais été sur le rendez-vous tech et on s'en rappelle même plus. Ça fait tellement longtemps.
Ça doit faire 2 mois, ouais. Ça doit faire au moins 2 mois parce qu'on s'était arrêté pendant 1 mois et ça faisait bien 3 semaines que t'étais pas venu avant. Donc et en plus t'étais en Finlande, mais pas quand j'étais en Finlande. T'étais en France, je sais plus quand. Et on s'est croisé.
Quand t'étais en Finlande, voilà, même pas. Exactement. Ouais. Non, on a lousé, on s'est même pas vu.
T'as passé un bon été au moins, c'était sympa, agréable, chaud.
Passé un bon été, merci. Oui, c'était très chaud en France. C'était la deuxième semaine de juillet, donc c'était vraiment torride. La canicule, aussi bien à Tours chez mes parents qu'à Paris. Et puis en Finlande, c'était assez sympa, j'ai beaucoup aimé. Très très sympa comme environnement. Par contre, au niveau pinard, alors ça c'est une catastrophe. Ils ont une espèce de truc d'État qui importe tous les vins pour le pays.
Ça et Alco, ouais.
Alco, et c'est que des merdes.
Mais c'est affreux. Et en plus, c'est assez cher, ouais.
Ah oui, c'est abominablement cher, mais c'est même pas bon. Tu vas dans un Alco et tu sais même pas quoi acheter. Et, en gros,
attention, faut pas trop dire de mal de la Finlande maintenant. Hein.
T'avais un truc argentin.
Ma femme va te.
Ah non, je dis pas de mal de la Finlande du tout. Puis mon beau-frère et ma belle-sœur y habitent, hein, Helsinki et tout. Mais je dis juste, au niveau pinard, c'est pas ça. Hein.
C'est vrai.
C'est tout.
Mais c'est une invasion finlandaise là dans le rendez-vous tech. Bon, il y a une autre invasion qui est beaucoup plus intéressante pour les auditeurs de l'émission. C'est l'invasion d'Apple. Je pense que on va réussir à vous trouver quand même des analyses, des interprétations sur les iPhone et iOS qui vont vous intéresser. On va faire un petit résumé rapide de ce qu'on a à dire sur les iPhone 5S, 5C. Mais on aura aussi des choses quand même un petit peu plus intéressantes. Des infos toutes fraîches qui viennent de tomber aujourd'hui. J'étais en train de dîner et puis j'ai vu qu'il y avait des infos sur la vente des iPhones qui sortaient et d'autres choses sur la Surface Pro, sur les nouvelles Surfaces, etc. Donc je suis venu devant l'ordinateur et j'ai englouti mes pattes et j'ai abandonné ma femme justement pour pouvoir vous proposer des informations toutes fraîches, chers auditeurs. Donc j'espère que vous apprécierez. Jeff, tout de suite, vite, avant de se lancer dans les infos à retenir qui seront l'iPhone, iOS 7 et quand même l'entrée en bourse annoncée de Twitter, sur laquelle j'espère que tu pourras nous éclairer en tant que bon venture capitaliste de la Silicon Valley que tu es.
Avec plaisir.
Avant donc de se lancer là-dedans, ton iPhone que je suis sûr que tu as déjà dans les mains et que tu chouchoutes avec amour depuis au moins 2 jours, puisqu'il est sorti il y a 3 jours. Tu l'aimes beaucoup ou tu l'aimes moyen ?
Ah bah je l'aime pas du tout parce que je l'ai pas encore en main justement. Et la raison, c'est que j'avais décidé de partir sur l'option Gold, donc la version or ou dorée de l'iPhone. Pourquoi ? Bah pourquoi pas, hein. Autant changer. J'ai eu le noir, j'ai eu le blanc, maintenant je vais avoir le gold. Ouais. Et malheureusement, je suis passé à l'Apple Store de Palo Alto et l'Apple Store de Stanford, qui sont tous les deux monstrueux. Et dans les deux, j'y suis allé donc à 8h20, donc ça faisait 20 minutes qu'ils avaient ouvert les portes. Et en gros, ils avaient chacun entre 5 et 10 iPhone Gold. et ils avaient déjà été nettoyés puisque dans les 5 ou 10 premiers Gus qui avaient acheté un iPhone, en gros tous les iPhone Gold étaient partis et ils ont aucune date pour leur disponibilité. Donc je l'ai commandé online et je n'ai pas de précision sur la date de livraison.
Ouais, ça viendra quand ils voudront.
Un maigre octobre, ça arrivera en octobre. Et donc je pense que je vais essayer de passer chez AT&T pour voir s'ils auraient pas quelque chose, mais en gros il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gold, il n'y a que du space gray qui m'intéressait pas.
Alors justement, ça nous permet de deux choses. D'une part, c'est assez surprenant de voir à quel point le gold a l'air d'être populaire. C'est assez surprenant parce qu'on pensait pas à l'origine, quand on a entendu qu'il y aurait un iPhone gold, un iPhone doré, on s'est dit que ça serait... T'es en train de boire un truc, non?
Yep, faut pas. D'accord.
Voilà. Non, bah non, c'est de l'eau. On entend ton... ah oui, oui. En revenant de Finlande, tu t'es dit je vais faire une cure de vodka, c'est ça? Non. Oui, non, par contre, on entend ton micro qui tapote contre tes vêtements, je crois. Ah bah t'as coupé le micro, c'est encore plus magnifique. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'iPhone Gold visiblement est très populaire et en plus il y en a pas beaucoup parce qu'il j'imagine qu'il pensait qu'il serait pas populaire, donc il est devenu très rare. Comme de l'or, c'est approprié. Autre chose, les chiffres de vente sont plutôt bons. Avant de passer aux chiffres de vente
plutôt
et aux
bon,
autres détails,
plutôt
très bon. Je voudrais juste dire qu'on va faire un tout petit résumé rapide des fonctionnalités du nouvel iPhone 5S et en dire deux mots rapides sur le 5C. Mais si vous voulez une analyse vraiment détaillée, je vous recommande d'aller écouter l'upload de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, dans lequel on a détaillé vraiment en long, en large et en travers ces deux appareils. Donc pour pas faire la redite, on va pas trop passer de temps sur les aspects techniques et en plus si vous avez déjà écouté l'autre, oui, ça vous fera un petit peu trop de répétition. Donc pour dire très rapidement, les améliorations notables de l'iPhone 5C, c'est un processeur 64 bits qui ne donne pas d'immenses bénéfices aujourd'hui, qui par contre est assez intéressant pour l'avenir d'Apple. Donc ça, pour le processeur, c'est une belle amélioration des performances en dehors du fait qu'il soit 64 bits, mais on voit aussi Apple prépare déjà l'avenir. Il y a aussi dans le processeur un coprocesseur de mouvement qui s'appelle le M7 qui permet à l'iPhone de comptabiliser les mouvements, donc les variations dans la boussole, l'accéléromètre, etc. sans solliciter le processeur principal, ce qui permet en fait de lui donner des fonctionnalités d'appareil de monitoring de santé, donc les Fitbit, les choses comme ça, et les Nike Plus, les petits appareils qui vous suivent et qui vous donnent des informations sur ce que vous avez fait au niveau sport et au niveau mouvement, sans donc drainer la batterie de l'iPhone lui-même, ce qui d'une part est intéressant pour l'appareil lui-même et d'autre part peut ouvrir la porte à peut-être une montre qui aurait ce type de fonction, peut-être qu'elle pourrait avoir soit le même coprocesseur, soit utiliser des informations de l'iPhone, enfin ce genre de choses. Autre amélioration pour l'appareil photo qui est largement amélioré, même s'il garde la même quantité de pixels, c'est toujours un 8 mégapixels. Il a il fait rentrer plus de lumière, il a des pixels plus larges. Il a aussi un flash qui est double, qui va adapter la lumière du flash à la lumière de l'environnement pour qu'on n'ait pas des visages tout blancs sur des photos un petit peu sombres. Il y a aussi un mode... ralenti, comme ça avait été annoncé par les rumeurs. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'appareil photo. En gros, l'appareil photo est sensiblement amélioré. Et enfin, on a ce fameux Touch ID, le lecteur d'empreintes digitales, qui avait lui aussi fait couler beaucoup d'encre pendant la période des rumeurs et qui s'est révélé tout à fait exact par rapport aux rumeurs. De toute façon, c'est pas compliqué. Comme on le disait dans Upload, toutes les rumeurs se sont révélées exactes. Donc, très très peu de surprises pendant cette conférence d'Apple d'il y a une dizaine de jours. Donc le lecteur d'empreintes digitales qui est plutôt bien foutu, qui a l'air de fonctionner. On verra un petit peu plus tard qu'il y a eu quelques nouvelles quelques moyens de prendre en défaut ce lecteur d'empreintes digitales par les moyens qu'on imagine, c'est-à-dire en fabriquant à partir d'une empreinte digitale relevée ou scannée ou photographiée en haute résolution, d'en créer une fausse, ce qui n'est pas vraiment surprenant, mais qui était amusant à voir. Donc, ce lecteur d'empreintes digitales qui est pour le moment uniquement utilisé pour débloquer le téléphone et pour faire les achats sur les magasins, les stores d'Apple. On verra qu'il n'est pas forcément évident d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales pour d'autres applications. On va en parler dans quelques minutes. Mais alors, avant de se lancer dans ces analyses-là, revenons aux chiffres. On disait à l'instant qu'il s'est plutôt pas mal vendu. Les chiffres annoncés il y a une heure au moment où on enregistre cette émission par Apple sont de 9 millions d'appareils. Ah, j'ai même pas. Vous voyez, j'ai même pas pensé à l'iPhone 5C. Ça va être très simple pour décrire l'iPhone 5C. C'est un iPhone 5 avec une coque en plastique qui est plutôt de bonne qualité pour une coque en plastique et qui est très colorée. L'aspect est un petit peu surprenant pour un iPhone qu'on assimile plutôt généralement à des appareils très haut de gamme, mais par contre le prix qu'on attendait très très bas pour cet iPhone 5C coloré n'est pas du tout très bas. Il s'est avéré que la presse, la machine à rumeur s'était emballée, et en fait l'appareil est simplement là pour remplacer l'iPhone 5 qui, au lieu d'être vendu à prix réduit, et remplacé par ce 5C qui est vendu au prix où aurait été vendu l'iPhone 5. Et c'est à 90 ou 95% le même appareil. À noter que le 5S et le 5C, pour les gens que ça intéresse en France, seront compatibles ou sont compatibles avec tous les réseaux 4G du pays. Donc, 5 millions pour ces iPhone 5C et 5S vendus ce week-end. Les premières estimations, en tout cas aux US, font état de 3 à 4, disons 3,5 fois plus d'iPhone 5C que d'iPhone... Pardon, excusez-moi, c'est le contraire. D'iPhone 5S que ouais. D'iPhone 5C. Ce qui n'est pas franchement surprenant. A priori, les gens qui vont se ruer dessus vont pas forcément se ruer sur l'iPhone 5C. Tu disais, Jeff, que les chiffres sont hallucinants. Est-ce qu'ils sont plus élevés et surprenants par rapport à ce qu'on attendait?
Bah c'est 7 millions en tout de 5S et de 5C qu'ils ont vendus.
Ah, moi, j'ai vu 9 millions. Hein.
C'est 9, d'accord.
Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, moi.
Bon, bah, c'est encore plus. Non, bah, en fait, le dernier record, c'était 5 millions d'iPhone 5. Et beaucoup de gens ont dit, ouais, mais bon, l'iPhone 5S, c'est pas vraiment de raison d'upgrader, est-ce que vous êtes sûr, etc. Et je pense que, bah, comme tu l'as dit, meilleure caméra et l'OS 64 bits, donc processeur plus rapide, la possibilité en fait pour les développeurs d'applications d'utiliser l'OS en background. Donc un des problèmes par exemple dans les OS précédents, si tu développais une application de type calendrier, tu avais du mal en fait à être réveillé par l'OS de façon permanente, de manière à pouvoir
tu parles de l'application, elle n'était pas réveillée par l'OS, l'application.
Voilà, c'est ça, l'application.
Oui, c'est le vrai multitâche, quoi.
Donc le vrai, c'est la vraie notification, et ça, c'était géré avec iOS 7. Donc il y a plein de raisons qui sont vraiment intéressantes pour upgrader. Et je pense que les gens, comme d'habitude, ont voté avec leurs pieds et leur argent, et on a vu en fait des files d'attente à 9h du matin de plusieurs centaines de Pékin, que ce soit sur University à Palo Alto, que ce soit à Stanford où c'est encore plus grand. Et j'ai vu un titre qui était rigolo, c'était alors il y a plein de gens qui attendent, mais on ne sait pas s'il va y avoir des bonnes ventes. Genre, tu te fais chier, tu te lèves à 2h du matin pour histoire de voir Tim Cook rentrer dans l'Apple Store, mais tu vas pas acheter ton iPhone. Enfin, je veux dire, c'est...
Il y a quand même... Laisse-moi prendre le contre-pied de ce que tu dis, parce qu'il y a une petite astuce qui aurait pu être une astuce marketing d'Apple pour créer ces files d'attente. C'est qu'ils n'avaient pas ouvert les précommandes de l'iPhone 5S avant la mise en vente dans les magasins, comme ça avait été le cas depuis les débuts de l'iPhone. Donc on aurait pu se dire, là, il crée artificiellement des files d'attente parce que les gens qui le veulent vraiment, les vrais Apple fanboys, vont aller dans le magasin parce qu'ils sont obligés. Plus ou moins, hein. Ils auraient pu commander le jour de la mise en vente, mais ils auraient dû attendre un petit peu plus longtemps, comme c'est ton cas, Jeff. Il n'empêche, c'est ce qu'on aurait pu penser, en fait, même les analystes prévoyaient entre 6 et 8 millions de ventes, finalement, on en vend 9. C'est un succès qui ne se dément pas pour l'iPhone. Je pense qu'on a un petit peu dépassé maintenant la guéguerre un petit peu ridicule entre Android et iPhone, où les gens disent « Ah, mais l'iPhone, il n'y a rien de vraiment intéressant, c'est juste du lavage de cerveau. » Et les fans d'iPhone qui disent « Oui, mais Android, ça marche pas, c'est un truc d'amateur. » Je pense qu'on a un petit peu dépassé ça, mais on continue à constater que le succès de l'iPhone ne se dément pas. comme tu le disais, pour moi en tout cas, j'ai trouvé que cet iPhone 5S était étonnamment un peu plus convaincant que l'iPhone 5, que j'avais trouvé un tout petit peu décevant. Finalement, sa seule vraie nouveauté, c'était cet écran un peu plus grand qui, pour moi, n'apportait pas grand-chose. Cet iPhone 5S a plus d'arguments à mon sens, donc je comprends que les acheteurs soient plus enthousiastes.
Et puis, ouais, enfin, je pense, tu as raison, si tu lis, en fait, les revues qui sont parues la semaine dernière de Walt Mossberg et de Pogue, etc., tous ces gens-là, en fait, se sont de façon plus ou moins unanime épanchés sur les plus de l'iPhone 5S, et Mossberg qui dit bah c'est le meilleur des smartphones qui est sur le marché, alors que le Gus a essayé tous les smartphones que tu puisses imaginer. C'est quand même assez significatif, et comme tu le dis, si tu n'avais pas fait l'upgrade sur le 5, le 5S c'est vraiment un gros plus, quoi. Parce que meilleure caméra, plus rapide, etc., je pense que ne serait-ce que ça, c'est une bonne raison pour considérer un upgrade, sachant que le cycle, c'est tous les deux ans, ton carrière va payer pour toi. Donc, en gros, c'est $300 au lieu de 700. Bon, c'est quelque chose que les gens vont regarder, quoi.
C'est sûr. Mais ça, c'est le cas tout le temps. C'est pas forcément juste le cas sur le 5S. Je pense que sur le 5S, il y a encore...
Non, mais si tu avais... Si, en fonction, en fait, de quand est-ce que t'as fait ton upgrade sur le 5... Sûr. Tu vois,
Oui, bien sûr, mais je veux dire, les gens qui avaient un 4 au moment de la sortie du 5, ils avaient autant de raisons d'acheter le 5. Ou peut-être un petit peu moins, je sais pas, peut-être qu'ils étaient moins convaincus, mais. Bon, toujours est-il que, comme tu le disais, les analyses et les reviews sont assez excellentes, et assez unanimes, effectivement. D'une part, le processeur est très puissant. C'est un petit peu la tradition quand il y a un nouveau téléphone qui sort, qu'il soit iPhone ou pas. Mais là, on a peut-être une classe un petit peu au-dessus. C'est pas forcément dû à cet aspect 64 bits, contrairement à ce que certains pourraient penser, mais le processeur, même en deux cœurs, selon tous les benchmarks, c'est un double cœur, il est plus puissant que certains processeurs 4 cœurs qu'on peut trouver chez la concurrence. Le processeur graphique est lui aussi très très puissant, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont assez intéressants et auxquels on pense pas forcément. Certains ont testé l'écran et la responsivité, à quel point il est réactif, on va dire, la réactivité de l'écran, ça va être plus français. Et effectivement, même l'écran touch est plus réactif que la concurrence, et de manière assez significative, là aussi. Et évidemment, quand on dit la concurrence, on pense essentiellement à Android. Donc, on a un téléphone qui, en tout cas, à ce moment de l'année, est le plus grand, le mieux noté et le mieux benchmarké. Je pense que ça ne surprendra pas forcément grand monde, et je pense aussi que ça convaincra pas forcément grand monde. C'est-à-dire que si on n'était pas déjà intéressé par iOS, je suis pas certain que ce téléphone, au-delà de ses performances intéressantes et top of the class, convainque qui que ce soit, de la même manière que dans l'autre sens, il y a peu de chances que ce qu'on voit aujourd'hui chez la concurrence convaincra pas forcément ceux qui apprécient iOS. Une autre nouveauté qu'on trouve dans l'iPhone et dans iOS 7, c'est le multipath TCP. Et là, je vais parler un tout petit peu technique pour donner ouvrir un petit peu la porte sur la manière dont Apple conçoit ses systèmes. Le multipath TCP, c'est un protocole qui vient d'être établi par les instances qui établissent ces protocoles, qui permet à un appareil d'utiliser plusieurs connexions en même temps. C'est quelque chose qui aurait dû, à mon sens, exister depuis longtemps. C'est-à-dire que vous voyez sur votre ordinateur, si vous êtes connecté en Ethernet, en filaire, et connecté en Wi-Fi à un autre réseau, eh ben vous pouvez pas vraiment utiliser les deux en même temps. Ce protocole vous permettrait de faire ça. En l'occurrence, sur un iPhone, ça permettrait d'utiliser le réseau 3G et le réseau Wi-Fi en même temps, au hasard. Alors, c'est pas incroyablement et ça va pas estomaquer qui que ce soit en soi, mais par contre, ça offre une vision intéressante sur la manière dont effectivement Apple implémente ce genre de technologie de pointe. Ça n'a pas forcément été le cas à tous les moments, mais là, il semble que cet iPhone 5S, à tous les points de vue, ait été vraiment pensé comme comment faire le meilleur de ce qu'on est en train de faire. En l'occurrence, le multipath TCP est utilisé uniquement pour Siri pour le moment. On imagine qu'il sera utilisé pour d'autres choses à terme.
Je pense que c'est effectivement Apple aujourd'hui a une réelle concurrence, que ce soit le Galaxy S3, S4. Il y a vraiment des téléphones qui sont plus que performants, beaux, grands, etc. Et comme tu le disais, soit tu es dans le camp iOS, soit tu es dans le camp Android. J'en discutais avec ma chère tante qui n'a pas upgradé sur l'iPhone 5. Et qui disait, notre fils est passé sur le Galaxy S3 ou S4, je sais plus. Et effectivement, elle aime bien le grand écran et tout, mais je lui dis, le problème, c'est qu'il faut passer à Android, t'as pas forcément toutes tes applications, et ça fait des années que t'es habitué à une certaine mécanique, et donc je vois pas trop l'intérêt de changer. Et paf, iOS 5, 7 arrive, et d'un seul coup, ça change pas mal de trucs, donc tu te dis, Apple a quand même pris un risque non négligeable, je trouve, quand ils ont introduit iOS 7. Bon, après quelques jours, je pense que tu t'y fais sans trop de problèmes, mais c'est vrai que les premières 2 heures, c'était pas évident, quoi.
Justement, parlons-en d'iOS 7. Première info qui est tombée dans les annonces de cette dernière heure aussi. Déjà 200 millions d'appareils qui sont passés sous iOS 7. On se souvient que pendant la conférence, Tim Cook annonçait qu'ils étaient environ à 700 millions d'appareils vendus ou qu'ils atteindraient les 700 millions en octobre. Là, on a 200 millions d'appareils déjà sous iOS 7. C'est quand même, comme toujours, on a envie de dire, mais encore plus rapidement que d'habitude pour Apple, une performance que d'unifier comme ça la base installée. C'est évidemment l'une des choses qui est très intéressante pour les développeurs. On est déjà à un petit tiers des appareils qui sont sous iOS 7 et on se doute que ça va continuer à augmenter. Pour parler d'iOS 7, tiens, moi donc je l'utilise depuis qu'il est sorti, ça fait presque une semaine maintenant. J'avoue que j'étais pas convaincu que je l'apprécierais au début, et j'ai été assez surpris de constater que en fait, il me plaît pas mal du tout finalement. Au bout de quelques jours, je me suis pris à éprouver un vrai plaisir d'utilisation. Il y a certaines personnes qui n'adorent pas ces aspects-là, mais le fait que chaque app se zoome, qu'on rentre dans l'app et puis qu'on en ressorte avec l'écran d'accueil qui revient comme une planète de laquelle on décolle, ça rend la navigation très fluide. Je trouve que l'ensemble est vraiment agréable à utiliser. Je suis le seul aspect finalement qui ne me plaît pas, c'est les quelques icônes par défaut d'iOS, qui est quand même un petit peu ironique, mais toutes ces icônes, genre les notes, les rappels avec leurs couleurs criardes et à mon sens assez mal choisies, vraiment ne me plaisent pas. Mais finalement, c'est finalement une partie assez minime de l'OS. Tout ce qui est les transparences colorées qui prennent la couleur de ce qu'il y a en dessous, comme le fond d'écran ou ce genre de choses, les transitions très fluides, etc., me plaisent beaucoup. Et franchement, iOS 7 me plaît beaucoup plus que je n'aurais pensé. Pourtant, vous savez que je suis client d'Apple depuis longtemps. Et au final, c'est une réussite. Je tempère un petit peu mes propos pour dire que ma femme, qui elle n'est pas du tout aussi techno-geek que moi, est plutôt rebutée par iOS 7. Elle trouve ça, non pas parce qu'elle a peur du changement, hein, c'est pas du tout son style, mais elle trouve ça criard, pas beau, pas bien foutu, mal proportionné. Elle arrive pas vraiment bien à définir ce qui lui plaît pas, mais c'est pas un truc qui l'attire. Alors elle finira par mettre à jour évidemment comme tout le monde, mais a priori comme ça, c'est pas quelque chose qui lui plaît foncièrement.
C'est simple, c'est ce que j'ai dit quand j'ai après avoir downloadé iOS 7, première réaction: putain, c'est aussi moche qu'Android. et je pense que un des problèmes, c'est cet aspect très très plat, très flat du design auquel tu n'étais pas habitué, qui nécessite en fait de se remettre. Faut s'y habituer, quoi. Le côté pratique, donc quand tu vas avoir le contrôle panel, le truc que tu quand tu appuies en bas et que tu montes. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin,
le centre de contrôle en français.
Le centre de contrôle où tu vas trouver donc l'accès au Wi-Fi ou Bluetooth, les commandes pour
l'équivalent
la musique, etc.
Du centre de contrôle Android qui existe depuis très longtemps.
Tout à fait. Donc ça, c'est bien parce que ça t'évite d'aller chercher ta lampe électrique sur les autres écrans si jamais c'est là. Donc il y a quelques idées qu'ils ont piquées à Android où c'est relativement bien fait. Donc oui, grosso modo, je pense que c'est assez rapide. Je trouve que la batterie de mon iPhone 5 en fait se bouffe relativement moins vite. Donc je pense qu'ils ont fait quelques améliorations au niveau consommation. Donc bon an mal an, après 2-3 jours, tu t'y fais quoi. Mais c'est vrai que les quelques premières heures, c'est pas simple.
Ouais. Mais tu sais que c'est marrant parce que l'aspect plat ou presque plat, parce qu'il est pas complètement flat design, finalement, moi, m'a assez conquis. Et quand je reviens dans des applications qui n'ont pas encore le nouveau design, ça fait un petit peu très vite. Hein, ça fait que 3, 4, 5 jours. Ça me fait mal aux yeux. Hein, les applications qui sont encore très rondes avec ces dégradés pour les boutons, etc. En gros, je pense qu'ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire que par le changement qui est pas arbitraire, je pense, mais qui aurait pu l'être. Ils ont fait vieillir le produit d'avant. Et il y a des choses toutes bêtes, hein, mais les polices de caractère qui sont très fines, très élégantes. Il y a une sorte de raffinement, je trouve, dans l'interface. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai trop bu le Kool-Aid, qui ai trop écouté Johnny Ive et ses diatribes presque, comment dire. J'allais dire drogué, mais c'est pas exactement ça. Donc c'est diatribe un petit peu psychédélique. Mais je trouve qu'il y a une certaine élégance, une certaine finesse dans la conception de l'OS. Donc venez nous dire dans les commentaires de l'émission si vous êtes conquis aussi ou si ça vous plaît pas du tout. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un plus grand nombre de personnes. À noter qu'il y a quelques bugs qui ont déjà fait leur apparition. Des bugs sur l'écran d'accueil, notamment des moyens d'accéder aux photos, aux téléphones, aux mails, par des petites astuces que vous pourrez trouver sur le net, sans passer par le code obligatoire ou même le lecteur d'empreintes digitales, donc des problèmes de sécurité sur ces iPhones. L'une des choses qui m'a frappé, c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit, c'est-à-dire que il y avait la possibilité, en utilisant Siri, de désactiver, ou plutôt d'activer, le mode avion, c'est-à-dire de couper tous les réseaux, ce qui permettait à quelqu'un qui, par exemple, qui volerait votre appareil, d'activer le mode avion et de faire en sorte que l'appareil ne serait plus trouvable par Find My iPhone, trouver mon téléphone, qui est cette application qui permet aux gens de trouver un téléphone qu'ils auraient perdu ou qu'ils seraient fait voler. C'est intéressant, je trouve, de parler de cette histoire parce que tout le monde a tout de suite imaginé que c'était une faille de sécurité terrible. Et comme souvent dans ce genre de cas, il a fallu attendre une petite journée pour que les gens réfléchissent un petit peu et se rendent compte qu'en fait, quand quelqu'un vole un téléphone, il peut très très vite l'éteindre et il pouvait depuis longtemps l'éteindre. Et du coup, faire en sorte qu'il ne soit plus trouvable par Find My iPhone. Donc, on a vu des gens un petit peu opportunistes poster des articles sur « Oh mon Dieu, ça y est, on a l'astuce qui permet aux voleurs de voler les téléphones » avant de se rendre compte que, en fait, ce problème existait déjà et existe depuis longtemps. Une petite note pour dire aux gens que l'iPhone, aujourd'hui, sous iOS 7, met à jour automatiquement les applications de l'App Store. Donc ça, c'est une chose à noter, mais deux modifications viennent mettre un coup de projecteur sur cette fonctionnalité. D'une part, la limite pour mise à jour en 3G a été augmentée à 100 mégas, et d'autre part, les mises à jour automatiques se font aussi en 3G. Ce qui veut dire que si vous avez un forfait un tout petit peu limité, il faut faire attention parce que si vous avez, je sais pas, une dizaine de mises à jour d'applications qui font à peu près 100 mégas dans le mois, et ben votre forfait 1 giga est parti. Donc il y a une option dans les réglages pour ne pas dans les réglages, je crois que c'est dans l'App Store, pour ne pas mettre à jour automatiquement en 3G. Voilà, c'est ça. iTunes Store et App Store, données cellulaires, vous désactivez ça. Ça, c'est l'info qu'il faut donner à tout le monde parce que camarades, vous allez perdre votre forfait très vite.
Mais ça, c'était off par défaut, non?
Non, c'était on par défaut. C'est on par défaut. Enfin, pour moi, c'était on par défaut.
Bah, pour moi, c'était off par défaut.
Ah bon? D'accord. Bon, bah, t'as eu de la chance. Je sais pas pourquoi. Une autre chose qu'il est intéressante de disséquer un tout petit peu. Apple a ajusté ce problème assez vite, mais il est intéressant de le noter tout de même avant de passer à nos histoires de Twitter et d'entrée en bourse de Twitter. Ça sera notre dernière histoire sur iOS. Avec l'arrivée d'iOS 7, les applications qui sont compilées pour iOS 7 ne sont plus compatibles avec les appareils qui sont sous iOS 6. Donc, Apple a activé une fonctionnalité qui est hyper pratique pour les utilisateurs, qui est que si l'application que vous voulez télécharger est sous iOS 7 et que votre appareil est sous iOS 6, eh bien il va automatiquement vous télécharger la dernière version iOS 6 qui est disponible. Et là on se dit effectivement c'est pas bête du tout, parce que ça permet aux développeurs de ne pas avoir à se soucier de la compatibilité des différentes applications, et aux utilisateurs de ne pas avoir non plus à se soucier de quelle application est compatible avec quoi et qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va pas marcher. On se dit c'est quand même pas bête, ça se fait automatiquement. Problème, si cette fameuse application, la version qui est prévue pour iOS 6 est un petit peu, pas délaissée, mais enfin vieillie, et que certains paramètres de l'application changent, par exemple elle utilise des connexions à Twitter qui ne sont plus valides, une API qui n'est plus valide parce qu'elle change, et ben le développeur qui n'a aucun accès et aucun contrôle sur cette distribution d'applications, et c'était le cas quand elle a été activée, était hyper embêté, parce qu'il disait ça, nous on peut pas contrôler quelle application est proposée sous iOS 6, du coup on va se prendre des utilisateurs qui vont télécharger une application qui est peut-être trop vieille et qui va pas fonctionner. Et donc, ils vont estimer que c'est nous, le développeur, qui sommes responsables. Évidemment, c'est pas le développeur, puisque cette application n'est plus maintenue et ils n'ont pas le contrôle sur cette application. Apple a changé la chose. Apple a permis aux développeurs de modifier donc les différentes versions qui sont disponibles. Donc, ça, tout est bien qui finit bien, mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'une fonctionnalité comme ça, qui est pensée pour faciliter la vie des gens, développeurs et utilisateurs, finalement, et cet effet pervers qu'on n'attendait pas. Bon, en l'occurrence, Apple a corrigé la chose très vite. C'est presque inhabituel pour eux, mais c'est plutôt bienvenu, et finalement, c'était un non-événement. Mais ça aurait pu être un petit problème. Bon, une dernière chose à dire sur iOS 6 ou sur l'iPhone 5, 5S, Gold, avant qu'on passe à Twitter.
Non, je veux mon téléphone. Now.
Bon, bah écoute. Ah tiens, je vais voir si on peut appeler Jérôme Kainborg qui a... Non, bon. Allô ? Je me suis muté moi-même en essayant de voir si on pouvait appeler Jérôme Kainborg.
Je vais
voir
si
on peut l'appeler. Non, c'est moi que j'ai muté. Je vais voir si on peut l'appeler ou pas. Et je sais qu'il a un anniversaire, donc bon, voyons. Oula, je vais... En fait, je ne vais pas le faire parce que je crois que le son du téléphone, le son du téléphone s'entend dans l'enregistrement. Et si jamais c'est le cas, ça risque de donner son numéro de téléphone à tous les gens qui écoutent Upload. Donc, on va éviter. Tant pis, Jérôme, tu nous feras un rapport un peu plus tard. Enchaînons donc sur Twitter. Twitter qui annonce son entrée en bourse avec une sorte de sombre histoire de processus d'IPO, donc de d'annonce d'entrée en bourse secret, parce qu'ils ont moins d'un milliard de revenus annuels, qui fait qu'ils vont pouvoir entrer en bourse sans rien dire, mais en fait on sait pas ce qui s'est passé. En fait, c'est pas du tout quelque chose de secret, c'est juste que une nouvelle procédure permet à ces sociétés de faire les négociations avec les autorités compétentes pour et la préparation de ces documents d'entrée en bourse dans le secret, s'ils ont effectivement moins d'une certaine somme, moins d'un milliard de revenus par an. Et ensuite, donc, ils livrent les documents et ils font l'annonce. Et ensuite, on a quand même, je crois, quelque chose comme un mois de préparation avant l'entrée en bourse effective. Donc, c'est pas quelque chose de secret. Du jour au lendemain, hop, Twitter arrive en bourse. Et on n'a même pas eu le temps de voir ce qui se passait ou quoi, comment. C'est pas tant secret que ça. Mais au niveau administratif et gestion de société, Jeff, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu sais, quel est l'intérêt de ce type de procédure ?
Bah, le processus silencieux, donc c'est l'équivalent français de ce nouveau système.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Stem, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques mois et qui permet donc aux jeunes startups qui n'ont pas encore passé le milliard de dollars, en gros, de faire, comme tu le disais, la première phase de soumission de ces documents auprès de la SEC, donc la Securities Exchange Commission, qui va réguler les marchés financiers. Donc soumettre tous les documents qui sont nécessaires à devenir public, c'est un espèce de méga document qui s'appelle le S1. Et donc, quand tu, dans l'ancienne méthode, une fois que tu mettais ce S1 à disposition des autorités, tu étais forcé de le mettre à disposition du public, ce qui veut dire que tu te mettais tout nu devant le marché, tes compétiteurs, l'investisseur retail, et il est possible que pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, donc le temps qu'il est nécessaire pour que tu peaufines ta soumission de documents, où il y a des allers-retours entre la SEC et toi, etc., pendant tout ce temps-là, il y a plein de spéculations, il y a plein de choses qui se disent, et tu ne peux pas répondre,
commenter,
argumenter, te défendre. Et ça a été un des gros problèmes de Groupon, si on se rappelle en fait de leur listing à eux, où tout le monde les avait déchirés en public. Et à partir du moment où tu as soumis un S1, tu ne peux rien dire, puisque tu es en registration. Donc, ce nouveau mode de soumission silencieux, ça te permet de passer au travers de ce sac à merde, si j'ose dire, puisque seules les autorités voient ta soumission, voient tes revenus, voient tes métriques, et au moment où la SEC te dit « oui, c'est bon, tu peux y aller », à ce moment-là, tu vas soumettre les documents, tout le monde va aller dans les papiers, les machins et trucs, voir qui a quel... combien de pourcentage dans la boîte, combien est-ce que les différents officers vont gagner, etc., etc. Mais au minimum, c'est dans un temps qui est extrêmement limité, 21 jours, pour répondre à ta question, même pas un mois. Et donc, 21 jours avant de sortir, Twitter soumettra son S1 devant tout le monde, et puis 3 semaines plus tard, ils seront sur le marché.
Alors, j'ai 2 questions qui me viennent tout de suite. La première, c'est, pour les sociétés qui ont plus de revenus, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça? Est-ce que c'est parce que les documents et leur structure et les informations sont trop complexes pour être étudiées en seulement 3 semaines, donc on veut avoir plus de temps? Pourquoi est-ce que il y a cette nécessité d'avoir ce S1 filing, comme on l'appelle, public lui aussi, ce qui n'est pas le cas de Twitter, on l'a compris.
Je pense que c'est, en gros, c'est une motivation pour essayer de donner un espèce d'avantage aux boîtes plus petites. Et ils ont mis une limite, si tu veux, à 1 milliard de dollars. Bon, quand tu arrives sur le marché avec 1 milliard de dollars, t'es pas une petite boîte, hein, clairement. Ouais. Ça veut dire que tu as attendu potentiellement plusieurs années avant d'aller dans le public. Et donc, ça veut dire que tu vas être soumis à ce niveau de scrutiny,
d'investigation, d'observation
publique, qui est ce qu'il est. Ouais. Donc, pourquoi 1 milliard, pourquoi pas 500 millions? Je pense que c'était arbitraire. La volonté, c'est que aujourd'hui, t'as énormément de boîtes et de fondateurs ou de CEOs qui veulent pas aller public parce que c'est trop chiant avec le niveau, donc, au niveau légal, le risque potentiel. 2, le niveau d'investigation.
Non, mais je comprends bien l'intérêt pour les boîtes qui peuvent utiliser cette négociation secrète en quelque sorte, mais pourquoi est-ce que les autres boîtes ne peuvent pas avoir cette négociation secrète? Pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir investiguer les boîtes pendant leur processus de S1 filing?
Bah,
peut-être que tu sais pas. Hein, mais...
Non, c'est juste, c'est juste une idée que théoriquement, aux États-Unis, tu regardes les boîtes qui ont été sur le marché public sur les dernières, disons, 3 à 6 mois. Tu as pas mal de boîtes qui sont entre 50 et 100 millions de dollars de revenus et qui sont encore en train de perdre de l'argent. D'accord? Donc, on est très loin du milliard de dollars de revenus avec des profits, etc., etc. Donc, ça veut dire que si tu veux bénéficier d'un filing silencieux, tu as tout le temps de le faire à partir du moment où t'es entre, tu vois, entre 50 et 100 millions de dollars de revenus.
Je parle des plus grosses.
C'est juste que quand t'es plus gros, t'es plus établi, t'as plus de clients et donc, t'as pas cette option de filing silencieux, c'est tout.
Donc, en fait, c'est un moyen de protéger ceux qui sont un petit peu plus petits, quoi.
Je pense que c'est plus une volonté d'essayer d'aider les boîtes qui sont plus petites et les amener sur les marchés, plus que essayons d'aider, tu vois, les plus grosses à faire quelque chose. Parce que bon, si t'as des milliards de dollars de revenus, c'est moins un problème que tout le monde aille regarder ce que tu fais parce que t'as une position qui est plus défendable, qu'une boîte qui ferait 50 millions de revenus, tu vois.
D'accord. Donc, c'est pour encourager et protéger le processus d'entrée sur le marché des boîtes qui sont un peu plus petites. Alors, justement, on dit un peu plus petite. Bon, évidemment, 1 milliard par an, c'est pas non plus minuscule. Mais est-ce qu'il est surprenant d'apprendre que Twitter, a priori, fait moins d'1 milliard de revenus annuels? Est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, c'est le revenu total. Hein, on parle pas des bénéfices. Là, on parle des revenus. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est normal? J'ai du mal à évaluer. Déjà, 1 milliard, pour moi, c'est un peu abstrait, mais toi qui brasses les millions chaque jour, tu sauras certainement nous le dire un petit peu mieux.
Écoute, je pense que Twitter est assez bien... Enfin, la position de Twitter dans le marché du média aujourd'hui est une position incontournable. Tu ne peux pas allumer une télé américaine ou ouvrir un journal américain sans avoir le Twitter handle de l'émission, du
Gus, le hashtag,
etc. Le hashtag, etc. Donc, c'est une position qui est prépondérante. Le truc, c'est que Twitter a vraiment fait son entrée, si j'ose dire, dans la monétisation il y a 3 ans, quand ils ont... embauché mon copain Adam Bain, qui était l'ancien patron de la monétisation et du business chez Fox Interactive, qui était donc la boîte qui avait racheté MySpace. Et en 3 ans, il a dû monter ses équipes de vente, il a dû essayer de voir quelle était la méthode la plus intéressante, mais aussi celle qui allait générer le moins de révolutions chez les utilisateurs pour essayer de monétiser.
Ce qui a été plutôt réussi, hein. On n'a pas eu l'impression d'avoir une sorte d'avalanche de pubs ou de tweets sponsorisés. Généralement, ça a été plutôt bien accepté, je trouve, ce début, en tout cas, de monétisation.
Les promoted tweets auxquels tu fais référence, effectivement, se sont assez bien fondus, en quelque sorte, dans l'écosystème, dans la masse. Les annonceurs aiment bien, donc il y a aujourd'hui beaucoup d'intérêt, en fait, dans l'audience Twitter, surtout avec leur possibilité de vraiment faire un espèce de targeting super précis. Donc, qu'aujourd'hui, alors les estimations, c'est des estimations, on saura quand il file, mais les estimations, c'est en gros qu'ils font 1 milliard, enfin 1,5 milliard de dollars cette année et qu'ils feront un peu plus 1 milliard l'année prochaine. Ça, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il y a 2 ans, ils faisaient bien moins que ça. Et donc, pour eux, le gros problème, c'est de partir il y a 2 ans d'une valo d'à peu près 8 milliards. Aujourd'hui, on parle d'une valo à 14 milliards pour leur IPO, une valorisation.
Combien tu dis, pardon ?
14 milliards.
D'accord.
Et je ne sais pas encore, c'est un chiffre qui a été murmuré, enfin murmuré suffisamment fort que tout le monde l'a entendu. Ce qui est très clair, c'est que, a priori, ils ne veulent pas faire la même erreur que Facebook et essayer de pousser au maximum la valorisation de leur entrée en bourse, qui nécessiterait derrière 1 an d'activité et de croissance du revenu pour qu'ils remontent au prix de l'IPO, puisqu'en fait, Facebook, il y a juste 3 semaines ou 4 semaines, a finalement atteint son niveau, son prix d'IPO d'il y a plus d'un an. Et d'ailleurs, c'est un des critères, bon, on m'a posé la question à la télé américaine, c'est un des critères, à mon avis, du choix de sortir maintenant plutôt que d'attendre le début de l'année prochaine pour Twitter, c'est que il y a pas mal d'IPO qui se passent en ce moment et qui se passent très bien. On entend parler d'une hausse premier jour entre 80 et 100% sur les deux dernières la semaine dernière, FireEye et Rocket Fuel. Facebook se positionne très très bien en bourse. Ils ont vraiment fait une grosse performance au niveau de leur advertising mobile, ce qui est clairement une des forces de Twitter. Et donc, je pense que l'environnement est super propice pour une très très bonne IPO pour Twitter.
Ouais, donc c'est pile le bon moment. Ils ont leur système de monétisation en place, mais ça a pas encore, la machine ne s'est pas encore emballée comme ils espèrent qu'elle va s'emballer. C'est pile le bon moment pour eux pour faire leur entrée en bourse et pour continuer à grossir après ça, quoi.
Oui, et puis aujourd'hui, c'est clair que même s'ils n'ont pas super affiné leur produit de pub, c'est quelque chose qu'ils feront dans le futur. Et je pense que tu vois, tu prends pas une position entre Facebook versus Twitter, c'est en gros t'achètes les deux et puis tu comptes les profits, quoi.
D'accord, très bien. Eh ben, écoute, merci Jeff. On aura certainement beaucoup plus d'infos sur cette entrée en bourse de Twitter et la manière dont ça va se passer dans les épisodes à venir. Voilà donc pour nos 3 grosses infos de cet épisode. Donc l'iPhone 5C, 5S, iOS 7 et l'entrée en bourse de Twitter. On va continuer avec nos news et rumeurs un petit peu plus rapides. Toujours les infos qui viennent à peine d'arriver. Microsoft a annoncé ses 2 nouvelles surfaces, la Surface Pro 2 et la Surface 2. Qui perd son RT, entre parenthèses, ceux qui connaissent qui se souviennent de la Surface RT, qui s'appelait d'ailleurs Surface RT with Microsoft Windows 8 ou un truc comme ça. Je crois que c'était Surface Pro with Microsoft Windows 8, le nom officiel. Bref, les nouvelles s'appellent Surface Pro 2 et Surface 2. La Surface Pro 2 a un processeur un peu plus puissant, 20% de plus, un processeur graphique, donc des capacités graphiques beaucoup plus puissantes, 50% de plus, et surtout une batterie qui a 75% de capacité en plus, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai que la Surface Pro était un petit peu faiblarde à ce niveau. On aura des chiffres et des estimations plus précises très bientôt. Il y a un dock aussi qui permet de facilement brancher sa Surface sur son bureau quand on arrive à la maison et de s'en servir comme ordinateur de bureau. Et ensuite, donc, de la débrancher et de partir avec et de s'en servir comme d'une tablette qui pourrait réaliser le fantasme de l'ordinateur polyvalent qui se sert de tablette quand on est en mobilité et d'ordinateur de bureau quand on est à la maison ou au bureau, hein, et on n'a pas besoin de se soucier des synchronisations et des fichiers qui sont sur l'un ou sur l'autre ou du cloud ou de tout ça. Et ben, on a tout directement sur notre unique ordinateur. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui refroidira sans doute un petit peu les gens, c'est le prix. Elle débute à $899. On imagine que ça se convertira en euros en Europe. Et elle va jusqu'à $1,800. Donc, c'est un beau joujou, mais ça fait quand même un petit peu cher. C'est peut-être le prix à payer pour avoir des capacités de ce type-là, des capacités de vrai PC, entre guillemets. C'est un Core i5 à l'intérieur, si j'ai bien noté, ça vient de sortir. Donc, c'est un petit peu cher quand même. La Surface 2 utilise un processeur mobile ARM avec un Nvidia Tegra 4, donc plutôt puissant pour un appareil mobile, et un ARM Cortex A15, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, $449 pour le premier prix de la Surface 2. C'est pas mal, c'est exactement les mêmes formes et les mêmes designs que les versions 1. Il n'y a que l'intérieur qui change avec tout de même des écrans 1080p, ce n'était pas le cas de la Surface RT si je ne m'abuse, donc des écrans de très bonne qualité. Est-ce que ça suffira à changer je vais même pas dire la perception, mais l'utilité, l'intérêt de ces machines? Je suis pas certain, je suis pas convaincu.
Non, qu'une
Toi, tu n'avais pas du tout aimé, hein, les premières Surfaces.
Non, c'était clairement bon. Il y avait pas assez de, il y avait pas assez de tout quoi. Il y avait pas assez de power. Il y avait pas assez de batterie. Il y avait pas assez d'appli. Il y avait rien quoi. Bon, il me l'avait donné gratos, donc c'est pour ça que j'avais utilisé. Ouais. Mais bon, tu utilises pendant, c'est un peu comme les Google Glass, quoi. Tu utilises pendant 3 jours et puis après tu les ranges et tu les ressors plus, quoi. Mmh.
Bah, l'idée de la Surface Pro 2, là, qui peut être un vrai ordinateur de bureau et un ordinateur en mobilité, ça pourrait être intéressant. Mais bon, en gros, si vous aimiez, je pense que si vous aimiez déjà les Surfaces premières du nom, vous aimerez la version 2. Et si vous ne l'aimez pas, je suis pas convaincu que ces nouveaux appareils vous convaincront, on va dire. Là encore, la Surface Pro 2, qui est plus puissante, aurait pu être intéressante, mais le prix, si ça remplace l'ordinateur et la tablette, pourquoi pas, peut-être, hein, à 900 ou 1000 dollars, ça peut être cohérent, c'est moins cher que l'accumulation des deux, mais ça fait quand même les deux, si ça fait les deux à moitié, c'est difficile de convaincre les gens. Et pourtant, on était beaucoup à bien aimer l'idée des surfaces. Malheureusement, les premières n'ont pas convaincu. Je suis pas certain que les deuxièmes convaincront plus, mais on verra. Deuxième news et rumeur, une histoire dont beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, m'ont parlé. C'est le projet PhoneBlocks. Et j'ai été extrêmement frustré et énervé et presque enragé de voir que ce mensonge réussissait à convaincre tellement de gens. PhoneBlocks, c'est une idée qui est merveilleuse, qui est une sorte de rêve, de doux rêve, où c'est un projet qui permettrait de construire son propre téléphone en fonction de ses besoins à partir de blocs. C'est un projet sur Indiegogo ou Kickstarter ou je sais plus, l'un des deux. Donc c'est un projet qui permet de construire son appareil en fonction de ses besoins. On a des blocs, genre le bloc processeur, et puis le bloc mémoire, et puis le bloc appareil photo, etc. Et le bloc écran, et on les emboîte les uns dans les autres. Et si on a besoin de plus de l'un, on peut utiliser un bloc qui fait plus de ça. Si on a besoin de plus de l'autre, on peut utiliser un autre bloc. Et puis si on veut faire évoluer son appareil, on peut remplacer certaines parties, etc. etc. C'est une très belle idée, mais qui, malheureusement, je suis désolé de vous le dire à tous ceux qui m'ont envoyé les liens sur Twitter et autres réseaux sociaux, ça n'arrivera jamais. Qui que ce soit qui a la moindre idée de la manière dont fonctionne un ordinateur ou une machine informatique comprendra immédiatement. Si vous êtes allé deux fois chez les Chinois de la rue Montgallet pour construire votre propre PC et que vous l'avez fait pendant plus de quelques années, vous saurez que ces idées d'appareils modulables ne fonctionnent d'une part que avec une latitude relativement limitée, parce que quand il y a un nouveau processeur, et ben il faut un nouveau socket, il faut un nouveau bus, il faut des nouveaux types de connexions. Les connexions elles-mêmes, en fait, dans les images qu'il montre sur la vidéo, c'est genre des petits trucs qui se pluguent avec quatre jacks. Bon, on peut même imaginer que s'il y avait plus de connecteurs, parce que quatre, ça suffira jamais à faire passer toutes les informations qu'il faut. Même les connecteurs font partie de l'écosystème de l'appareil et ont besoin d'évoluer. Vous pouvez pas changer un processeur sans changer ce qu'il y a autour. Parfois, il faut changer la RAM. Parfois, il faut changer... Enfin, si vous changez l'appareil photo et qu'il fait passer plus d'informations parce qu'il a plus de pixels et plus de d'informations dans les images, il va falloir changer le bus. Enfin, je suis désolé, hein, c'est un beau rêve, mais ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas comme ça. Et pas tant qu'on n'évolue pas complètement notre système informatique dans son ensemble. Donc voilà, c'est une sorte de cri du cœur qui m'a rongé pendant des jours et des semaines depuis que, je sais pas, une fois par jour, il y a quelqu'un qui m'envoie le lien genre « Oh, regarde PhoneBlocks, ça serait merveilleux, c'est fantastique comme projet, ça permettrait de faire du recyclage, ça éviterait les déchets d'appareils informatiques dans la nature, blablabla. » Oui, ça pourrait, mais autant que ça serait sympa de s'envoler sur des licornes et des rainbows, comment ça se dit, des rainbows en français, des arcs-en-ciel, voilà, de voler sur des arcs-en-ciel.
C'est pas à moi que tu veux poser la question, hein.
C'est sûr. Bref, voilà, PhoneBlocks, pour moi, ça ne se fera jamais et j'en suis désolé autant que vous. Google, quelques informations sur Google. J'espère que tu n'es pas investisseur dans PhoneBlocks ou que tu louchais pas dessus, non ?
Okay. Nope.
Ok, tout va bien. Google, YouTube permettra bientôt sur les appareils mobiles la lecture hors ligne des vidéos que vous voulez voir. Alors, c'est intéressant en soi, c'est-à-dire que vous téléchargez une vidéo et vous pouvez la regarder pendant 2 jours sans être connecté. Si vous vous reconnectez, ça étend la chose, bien sûr. Ça pourrait être le début d'une stratégie un peu plus large. C'est pas encore mis en place, mais on peut imaginer qu'il y ait des émissions qui soient un peu plus longues que ce qu'on voit d'habitude sur YouTube, peut-être des émissions de télé, ou peut-être une sorte de concurrence au podcast qui pourrait être intéressante. Donc ça arrive bientôt sur les appareils mobiles. Google Glass, si vous attendez Google Glass, bon, si Jeff ne vous a pas dégoûté des lunettes Google et que vous l'attendez toujours, eh ben, il va falloir attendre encore parce que Eric Schmidt a annoncé qu'elle n'arriverait pas en Europe avant au moins quelques années.
Non mais attends, qu'on précise quand même, parce que bon, Google Glass, d'un côté, c'est en gros une vue dans le futur de tout ce qui est wearable computing, donc les ordinateurs que tu portes sur toi. Mais les glaces telles qu'elles sont aujourd'hui, le problème, c'est la durée de la batterie est tellement limitée que tu peux pas l'utiliser de façon continue. Et le nombre d'applications qui tournent sur la babasse, en gros, à quoi ça sert aujourd'hui, c'est tu te balades et tu prends des petites vidéos et tu prends des photos. Et c'est sympa. Je veux dire, c'est sympa. Simplement, tu n'as pas d'application qui en fait un must have ou un must wear. Et puis t'as encore les réactions.
T'as l'air d'un con, hein.
Non, t'as pas l'air d'un con. Ce que tu fais, c'est tu mets la partie, tu mets les lunettes de soleil avec sur la monture des Google Glass et tu trimbales dans San Francisco et t'as pas tant de gens qui s'arrêtent pour te regarder et qui te disent Glass Hall. Ça m'est arrivé genre 2 fois sur un segment de une dizaine de minutes. Donc,
ouais, pas mal quand même. 2 fois.
Attends, c'est San Francisco. J'étais sur Second Street du côté de Mission. C'est là où t'as tellement de geeks concentrés au mètre carré que je veux dire, c'est pas la réaction du commun des mortels.
Ok.
Et donc, c'est vrai que c'est sympa. C'était super intéressant. Je regrette pas d'avoir planté $1,500 dans ce truc. Mais c'est encore le tout début des applications pratiques. Et en fait, on passe pas mal de temps avec le fond. Softtech sur les applications pratiques d'un truc comme les Google Glass. On pense que c'est dans le domaine du médical qu'il y aura des applications intéressantes, mais le hard, je veux dire, les Google Glass que l'on a aujourd'hui, c'est un peu comme la toute première version du Nexus. Si tu te rappelles, le tout premier téléphone Android de chez Google, c'était quand même une grosse merde. Mais c'était ce qui te permettait de voir un petit peu ce que Android pourrait devenir. Donc c'est de ce côté-là, c'est super intéressant et c'est dommage que vous l'ayez pas, quoi.
Oui, bah écoute, moi j'aurais bien voulu le tester aussi, mais à un moment.
Bah t'as qu'à venir à la maison, puis comme ça je te prêterai mes Google Glass et tu pourras toi aussi te faire traiter de Glass Hall quand tu marches au milieu de San Francisco.
Bah écoute, pour le moment je dois aller au Japon pour mon voyage de noces, mais le prochain voyage ça sera aux US. Donc je passerai par chez toi.
Super.
En attendant, il y a quelque chose qui risque de nous intéresser puisque nous sommes un petit peu vieux tous les deux. C'est Calico, la nouvelle société fondée par Google, qui est complètement concentrée sur la santé et le bien-être. Ça a l'air un petit peu doux et rose quand on le dit comme ça. En réalité, ils veulent combattre la mort. Alors pas combattre la mort avec sa faucille et eux ils ont une épée surchargée aux nouveautés technologiques, hein. Ils veulent combattre la mort vraiment dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire, c'est un de leurs projets complètement à super long terme, l'idée est d'essayer de créer des technologies et de faire de la recherche dans des domaines qui vont non pas, alors c'est marrant parce qu'ils disaient le fait de vaincre le cancer, c'est, en gros, je schématise, mais c'est un peu petit bras. Hein, vaincre le cancer, ces petits bras pour Google, c'est pas quelque chose qui améliore la durée de vie, l'espérance de vie de l'humanité tellement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gagner 5-10 ans de moyenne si on réussit à combattre le cancer, à guérir le cancer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est améliorer la durée de vie des gens, de l'humanité, de plusieurs dizaines d'années. C'est l'idée d'essayer de trouver des thérapies géniques, des méthodes de ralentissement ou d'arrêt du vieillissement, du processus de vieillissement des cellules, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui voit à long terme. Moi, je suis tout à fait pour, hein, je commence à être un petit peu âgé, j'ai 40 ans depuis quelques jours. C'est un petit peu âgé, on s'entend.
Gamin.
Oui, voilà, faut que je fasse attention avec qui je suis quand je dis ça. Mais oui, si d'ici, je sais pas, une vingtaine d'années, Google peut offrir de me rejeunifier de quelques années, moi je suis pas contre. Et je peux leur donner mes informations personnelles pour ça, il y a pas de problème. Vous me faites de la pub, ça me va. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Des licenciements chez BlackBerry, ça sent le roussi chez BlackBerry. D'ailleurs, ils ont annoncé le fait qu'ils avaient signé une letter of intent, une lettre d'intention pour redevenir privé, un petit peu comme l'a fait Dell pendant, enfin vient finalement de le faire Dell après des années de combat, des mois en tout cas de combat. BlackBerry redevient privé, c'est ça que ça veut dire, une letter of intent, une lettre d'intention. Est-ce que c'est un truc légal ou tu sais de quoi il s'agit, Jeff, ou c'est juste ce que ça veut dire?
C'est pas parce que tu signes une lettre d'intention que ça va forcément aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que, en gros, c'est tu dis qu'il y a une transaction qui est en cours de négociation, tu rends cette négociation publique, parce que clairement, c'est pas le genre de chose qui peut se faire dans en catimini, parce que c'est une boîte publique, donc il y a des besoins de disclosure aux investisseurs, d'information aux investisseurs et au marché. Donc on va voir où ça va aller, mais bon, le problème c'est que il y a pas mal de groupes comme ça. J'ai un copain qui avait regardé en fait une reprise de BlackBerry il y a un an et demi maintenant, et en gros c'est très très compliqué, parce que quel est l'asset sur lequel tu vas essayer de faire repartir la boîte, quoi. Et c'est pas évident du tout, quoi.
Ouais, bon. Bah, espérons qu'ils réussissent à trouver quelqu'un. C'est l'une des boîtes BlackBerry, un petit peu comme Nokia, hein, dont on aurait voulu que les choses se passent mieux. C'est vraiment la boîte, enfin une des boîtes dont on aurait voulu qu'ils réussissent à revenir. Bon, BlackBerry 10 ne leur a pas permis. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Lenovo pour racheter BlackBerry, parce que Lenovo, qui était anciennement IBM version PC, enfin pour leur business PC, est très orienté marché professionnel, marché des entreprises, un petit peu comme Dell d'ailleurs, on vient de parler de Dell. Bon, on verra ce qui se passe pour BlackBerry, ça sent pas super super bon. Et enfin, il y avait d'autres infos Google. Il y a un appareil Ubuntu qui réalise un petit peu ce fantasme de l'appareil qui est à la fois desktop et à la fois appareil téléphone, là, qui sera disponible le 17 octobre. Mais avant de conclure l'émission, on va juste mentionner l'annonce de Valve, la société de jeux vidéo, qui s'appelle SteamOS, qui est donc leur fameuse porte d'entrée vers le marché du salon pour les jeux vidéo, avec la concurrence aux consoles de salon. C'est un OS carrément, ça c'est une chose qu'on n'attendait pas, un OS basé sur Linux qui sera disponible en 2014. Donc on imagine ils ont confirmé qu'il sera disponible gratuitement, et qu'ils avaient beaucoup de développeurs qui avaient donné leur accord pour développer sur cette OS eux aussi. Donc on imagine qu'on va voir arriver des appareils sous SteamOS. Ça c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Je vais pas en dire plus parce que je travaille moi aussi pour une société de jeux vidéo, donc il y aurait un conflit d'intérêts, société rivale comme toutes les sociétés de jeux vidéo. Donc voilà, je m'arrête là, mais c'est une information intéressante pour l'écosystème informatique en général. Un commentaire sur ces dernières choses qu'on vient de dire, Surface, Google, encore BlackBerry ou autre chose? Non? On conclut?
Non, je pense que tu as dit un peu l'essentiel, c'est que, en gros, c'est que ce soit BlackBerry, que ce soit Dell, c'était des géants dans leur industrie qui n'ont pas su prendre un tournant clé à un moment dans les quelques dernières années, et ils sont fait bouffer en un temps record, ce qui prouve bien que toute société, quelle que soit sa taille, ses revenus, peut pas rester s'endormir sur ses lauriers, parce que il y a toujours des compétiteurs qui se développent, et ils se développent de plus en plus vite.
C'est marrant, il y a des gens qui m'ont fait la remarque à propos de Nokia, justement. Il y a certaines personnes, deux ou trois, qui m'ont dit « Ah, il semblerait que Stephen Hillop, donc qui venait de Microsoft, qui allait chez Nokia, ait été une taupe qui a plombé Nokia intentionnellement pour que Microsoft puisse les racheter. » Bon, d'une part, quand Hillop est arrivé chez Nokia, je suis pas certain qu'on pouvait voir aussi loin encore, mais peut-être. Mais surtout, ce que ces gens-là oublient très très vite, c'est que BlackBerry et d'autres, on pourrait parler de LG, HTC, etc., etc., même Sony dans le domaine des téléphones mobiles, BlackBerry, en tout cas, n'a pas eu besoin d'un Stephen Hillop pour se planter. Il y a vraiment eu une révolution complète avec l'arrivée de l'iPhone et la montée en puissance d'Android que les géants de ce marché n'ont pas su gérer, à part Samsung, certainement, qui, à vrai dire, est monté en puissance eux aussi ces dernières années. Donc, BlackBerry est un exemple frappant du fait qu'on n'a pas besoin d'avoir Stephen Hillop qui pour vous saper pour perdre pied dans ce marché. Donc, bref, je trouvais ça intéressant. Allez, on va conclure l'émission. Comme d'habitude, avant de le faire, je vais te demander, cher Jeff, de nous dire et de dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech.
Typiquement, c'est sur Twitter @Jeff. Ou sur Facebook, facebook.com/JeffClavier. Mais en ce moment, je suis plutôt busy, donc je suis pas trop sur les réseaux sociaux.
Donc en fait, on peut pas te retrouver, quoi.
Si, si, parce que bon, je fais quelques petits passages, je dis bonjour, je poste une photo de pinard par-ci, je pimpe une de mes boîtes par-là, mais ça a été un été studieux. Mais j'y peux rien, c'est les copains, merde. Non, ça fait 13 ans que je vis ici, qu'est-ce que tu veux?
Ok, donc ton Twitter, c'est Jeff. Pour ma part, c'est NotePatrick, vous le savez, sur Twitter. Vous retrouvez les notes de l'émission et vous pouvez venir commenter sur le blog. C'est frenchspin.com. Vous y retrouvez aussi d'autres émissions de mon cru, à savoir Upload, dont je parlais tout à l'heure. Vous aurez dans le dernier épisode des informations et des analyses encore plus poussées sur l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Vous trouvez aussi Positron, qui est une petite émission dont je suis très fier et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, où on vous donne des conseils de produits culturels, des petits trucs super cool qu'on vous recommande si vous voulez passer un petit peu de temps à découvrir des choses merveilleuses. Allez écouter, je décris très mal, mais c'est très sympa. Et puis évidemment, vous pouvez nous laisser des commentaires sur iTunes, qui est la plus grande bibliothèque de podcasts du monde. On n'a pas peur de le dire. Évidemment, c'est toujours pratique parce qu'il y a plein de gens qui nous découvrent régulièrement. J'ai eu l'exemple d'une connaissance qui a récemment dit qu'elle nous avait découvert simplement parce qu'elle se disait je vais aller voir, il faut que je m'informe un petit peu sur la tech. Je vais aller voir cette histoire de podcast sur iTunes. Ils ont tapé tech, ils ont trouvé le rendez-vous tech et ils ont bien aimé. Et vous pouvez faire donc comme Ludo on the iPhone, qui nous avait laissé un commentaire il y a un bon moment et qui l'a mis à jour pour mon anniversaire le 21 septembre. Merci à toi Ludo. Il nous dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de Patrick. Eh bien après presque 4 ans de le rendez-vous tech, je suis heureux de lui souhaiter et d'être toujours un fidèle abonné de cette passionnante émission. Merci Ludo, je vois que nous avons pu...
Ça c'est gentil.
Non seulement c'est gentil, mais en plus la flamme, tu vois, de la passion n'est pas morte après 4 ans entre nous. Nous sommes toujours comme au premier jour, donc j'apprécie ton commentaire. J'espère faire aussi bien dans mon mariage qui est naissant lui aussi. Sur ces commentaires, je vais vous souhaiter deux excellentes semaines jusqu'au prochain épisode du Rendez-vous Tech et on vous fait de très grosses bises et donc à très très bientôt. Ciao à tous.
Ciao.
most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.